Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Alors, est-ce qu'on sait enfin qui a volé votre ventilateur ?
Oh oui, on a des pistes, on a des... Il nous écoute d'ailleurs, il est en danger.
Rendez le ventilateur.
Non, c'est trop tard, il est en danger, c'est tout.
C'est vrai ? Oui. Vous avez déposé plainte ?
Absolument, je vais mettre Serran tout à l'heure.
Bien, alors si tu ne vas pas en Indonésie, l'Indonésie viendra à toi, Manu.
Absolument, absolument, puisque à l'heure actuelle, au BHV, BHV Marais, il y a une très grande opération.
Je suis très étonné parce que vous ne dites plus le bazar de l'hôtel de ville, Manu.
Si, mais vous savez que ma maman y a travaillé, Philippe, dans les années 60, absolument. Ouais. Oui, absolument.
Le bazar de l'hôtel de ville.
Ma maman était vendeuse là-bas. Moi, je suis un natif du quartier, moi. Hein, donc, le BHV, ça m'a accompagné toute ma vie. Mais c'est vrai qu'on dit BHV maintenant.
Mais c'est vrai, je sais.
Oui, d'ailleurs, je vous croisais souvent au rayon bricolage au sous-sol.
Ah oui, mais le plus grand rayon bricolage de Paris, en tout cas. On trouve de tout au BHV.
Absolument.
Mais là, on trouve l'Indonésie au BHV.
Tout à fait, tout à fait. De Java à Bali. Alors, pas toute l'Indonésie, hein, parce que c'est une île avec plusieurs milliers d'archipels. Enfin, un archipel avec plusieurs milliers d'îles, pardon. Je l'ai dans le désordre. Là, on est vraiment concentré sur Java, sur Bali. C'est organisé en collaboration avec l'ambassade d'Indonésie en France. Et on va trouver des animations culturelles, des expositions et des produits balinais qui viennent également de l'île de Java. Et puis, comme on parle aussi de cuisine, hein, dans Dessus de table, on va parler de cuisine. Mais tout d'abord, nous avons avec nous Deti Silvida Gani, qui est chef et première secrétaire, je l'ai perdu, dites-moi le titre exact. Wow. Pourtant, chef et première secrétaire du service d'information et socioculturel de l'ambassade d'Indonésie en France. Voilà. Et puis, nous avons avec nous, Nin Hanafi, qui est responsable de Indonesia Diaspora Network France, qui est l'association de la diaspora indonésienne en France, et qui est également propriétaire, ça tombe bien, du restaurant Jakarta Bali. On est en plein dedans, là, avec l'animation actuelle, qui est 9 rue Vauville, à Paris 1er. Bonjour Deti, bonjour Nin.
Bonjour Manuel.
Bonjour. Alors Manu, l'Indonésie, alors moi c'est marrant de voir l'Indonésie rue de Rivoli, hein, je vous dis tout de suite, puisque pour les Parisiens qui se promènent et qui passent devant cette fameuse façade du BHV, eh ben il y a de l'Indonésie partout. Donc c'est l'occasion pour vous d'aller déjà un petit peu voir la culture, nourriture.
Exactement, l'artisanat et surtout, c'était une grande surprise pour ceux qui sont passés le jour de l'inauguration, puisque il y avait un grand défilé, hein, un grand spectacle, hein, devant le BHV sur la rue de Rivoli qui avait été bloquée pour l'occasion, avec une, on va dire, meneuse de revue d'exception, puisqu'il s'agissait d'Angoon, hein, qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, qui était là en guest mégastar, et qui a parfaitement animé cette inauguration. Et donc, pendant une bonne partie de l'été, hein, nous aurons l'Indonésie à tous les étages du BHV, presque, hein, du 8 juin au 17 juillet.
C'est ça.
Alors, le parcours, c'est Java à Bali. Il faut savoir que ce sont deux grandes îles de l'Indonésie.
Voisine.
Mais c'est une toute petite partie de l'Indonésie, hein,
c'est ça.
Deti.
C'est vrai. On a 17 508 îles en Indonésie. Alors, donc, de Java à Bali, c'est juste deux îles d'Indonésie. Mmh. Il y a tout le reste qu'il faudrait venir découvrir.
Oui. Et on parle beaucoup de Bali, peut-être moins de l'île de Java, mais aujourd'hui, l'île de Java, de par sa taille et de par les merveilles qu'elle propose, est peut-être une des îles les plus importantes et intéressantes du monde. Hein.
C'est vrai.
Java.
Java, oui. C'est une des îles les plus peuplées au monde, déjà pour commencer. Et du côté droite jusqu'au gauche, du côté ouest à l'est, il y a beaucoup d'îles principales d'Indonésie. D'abord, il y a la capitale qui est Jakarta. Et ensuite, la deuxième ville la plus grande d'Indonésie qui est Surabaya, qui se trouve aussi sur l'île de Java.
Et quand on parle de merveilles naturelles, que ce soit les parcs naturels, que ce soit les volcans, par exemple, si on prend Ujung Kulon qu'on voit dans l'exposition, alors, il faut expliquer aux gens en quoi c'est un endroit extraordinaire, Ujung Kulon.
C'est un parc national, Ujung Kulon. C'est côté ouest de l'Indonésie. Et après, si vous allez vers le centre, vous avez Borobudur. qui est aussi un des géoparcs de l'UNESCO, en plein milieu de l'île de Java. Ensuite, si vous allez jusqu'au fond, là, il y a les plages magnifiques de Pacitan pour faire du surf en Indonésie.
Eh oui. Alors, on l'a dit, hein, c'est avant tout un archipel, l'Indonésie, mais c'est plus de 16 000 îles. Hein. Quand on pense à un archipel...
17 508 îles.
C'est ça, oui, parce qu'on continue à en découvrir de nouvelles, en c'est plus. Vrai, hein. Oui. Donc, c'est vrai, quand on pense à un archipel, on pense à 5, 6, 8 îles. Hein, l'archipel des Baléares, où il y a 4 îles. Non, non, là, on a donc 17 500 îles. Mais c'est aussi, sur toutes ces îles, c'est plus de 1000 ethnies. Donc, c'est une diversité culturelle, historique, qui est incroyable, qui fait de l'Indonésie quelque chose de très complexe, mais de très complet aussi.
C'est vrai, oui. La grande diversité indonésienne de parties culturelles, de langues, c'est multiethnique aussi en plus. Il y a beaucoup de choses à voir, à regarder, à découvrir de l'ouest jusqu'au... Si vous voyez la différence de démographie aussi, ça commence à se voir du côté ouest. Les gens sont beaucoup plus, disons, si je peux dire, beaucoup plus très musulmans. Après, vers le centre de Java, surtout, ils étaient à l'époque bouddhistes et hindous. Ensuite, sur l'île de Bali seulement, là, vous avez une très grande communauté hindoue.
Oui, alors, il y a plus de 250 millions d'habitants, donc 95, un peu plus de 95% sont musulmans. Mais les autres religions monothéistes sont malgré tout reconnues.
Il y en a six qui sont reconnues en Indonésie, mais surtout, nous avons beaucoup, c'est la plus grande population musulmane au monde.
Oui, 95% de 250 millions, c'est forcément, ça c'est énorme. Oui, ça fait beaucoup. Et on se dit, du coup, bah, les 5% des 5 autres religions qui sont reconnues, ça fait pas beaucoup. Mais si, 5% de 250 millions, ça fait du monde.
Ça fait du monde, oui, c'est vrai. Et c'est plutôt hindouiste.
Oui, plutôt hindouiste, effectivement. Et ça se ressent effectivement aussi dans la cuisine, dans la culture, dans l'artisanat.
C'est ça.
C'est pour ça que, par exemple, si vous parlez de cuisine, Manu, si on prend peut-être le plat qu'on voit le plus à Bali, Manu, c'est...
À Bali, très bonne question, Philippe.
C'est du babi guling.
Ah, le babi guling, voilà.
Et le babi guling, c'est du... C'est du cochon. C'est du cochonnet grillé.
Ah, c'est pour ça que vous vouliez que je le dise, moi. Vous aviez peur de faire starfoulance.
Moi, je ne voulais pas aller dans la starfoulance. Mais bon, vous ne m'avez pas aidé dans ces cas-là. Mais c'est vrai que c'est du cochon grillé.
Tout à fait. Croustillant, babi guling. Donc, il faut préciser que Bali est hindouiste. Bien sûr, on trouve des restaurants halal sur l'île, mais essentiellement, oui, les Balinais mangent du cochon, bien sûr.
Oui, et c'est vrai que on pense souvent à beaucoup de pays du Golfe ou autres pour ce qu'on appelle le tourisme halal, hein, qui est très en vogue, mais on pense assez peu souvent à l'Indonésie. Alors que en Indonésie, le tourisme halal, c'est le lieu idéal parce qu'on a d'un côté une diversité culturelle, mais d'un autre côté aussi la possibilité de trouver des restaurants halal absolument partout.
Voilà. Absolument partout, c'est
et de
vrai.
Trouver des mosquées, etc.
La plupart des Indonésiens, puisqu'on dit la plupart des Indonésiens, qui est une très grande population musulmane, donc mange des produits halal, donc c'est l'endroit parfait pour aller découvrir, pour aller voyager en voyage halal, si on peut dire.
Aujourd'hui, c'est la destination numéro un, d'ailleurs, hein, de tourisme halal au monde, oui, avec la Malaisie qui se trouve juste derrière, hein, deuxième pays.
Oui, alors, l'intérêt aussi de l'Indonésie, c'est que ce mélange de cultures fait qu'on est à la fois un petit peu en Asie centrale, en Asie tout court, en Asie du Sud-Est. Il y a vraiment, effectivement, il y a eu des influences chinoises et autres. Et donc, il y a vraiment un mix de cultures sans pareil, ce qui fait aussi, d'ailleurs, de la cuisine indonésienne l'une des meilleures du monde. Hein, c'est Panin qui me contredira, puisqu'elle est régulièrement certains plats indonésiens sont élus meilleurs plats au monde, meilleures recettes au monde par les lecteurs de CNN Travel, je crois.
Le rendang, notamment, le bœuf mijoté au lait de coco, qui est originaire de Sumatra, à plusieurs reprises a été voté meilleur plat au monde sur ce sondage.
Et le saté ayam, souvent deuxième ou troisième.
Et le nasi goreng aussi.
Et le nasi goreng aussi, qui est dans le top 5, oui.
Voilà.
Alors, Nin, et ça je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est de faire déjà connaître la cuisine indonésienne en France, qui reste encore mal connue, il y a beaucoup de choses, et aussi de faire connaître l'étendue de sa variété, parce que c'est vrai qu'il y a les plats emblématiques dont on parle, souvent le nasi goreng, le rendang, les satés. Mais au-delà de tout ça, il y a une cuisine qui est d'une variété, d'une richesse incroyable.
Absolument. Effectivement, nous avons les plats iconiques qui sont connus, bien sûr, les satés, les brochettes de poulet à la sauce cacahuète, le nasi goreng.
Saté ayam.
Un nasi goreng qui est le plat presque national, on va dire. Hein. On peut petit déjeuner d'un nasi goreng. Chacun a son nasi goreng, Philippe, vous savez bien. Mmh. On peut le faire au poisson, au bœuf.
Oui, alors je traduis pour les auditeurs, nasi goreng, c'est du riz sauté, hein, et agrémenté de viande, de poisson, de légumes, etc.
Qui peut être servi avec un œuf sur le plat, très classiquement, voilà. Donc, mais aussi, chaque région a sa spécialité, comme en France. Donc, lorsqu'on voyage, par exemple, si nous voyageons, par exemple, à Surabaya, on va ramener des olé olé. Et ça, c'est une tradition.
Alors, olé olé, ça veut dire souvenir.
Voilà, souvenir, mais en fait, on ramène toujours quelque chose à la famille, aux amis.
Moi, j'ai remarqué que les Indonésiens, quand ils voyagent, par exemple, ils ramènent toujours la spécialité culinaire de la ville dans laquelle ils vont, dans des énormes boîtes,
absolument,
en plus.
Donc, dans les aéroports, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des gros cartons, voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les olé olé des gens qui voyagent et qui rentrent chez eux pour donner aux amis, à la famille.
Alors, Surabaya, il y a une gastronomie assez originale. Hein. Il y a notamment une soupe qui s'appelle rawon, qui a une couleur assez particulière. Hein. C'est noir, foncé, brillant.
Oui, hein. C'est le kluwak.
C'est meilleur à manger qu'à voir.
Mais c'est excellent. Non ? Est-ce que vous l'avez goûté ?
Alors moi j'en ai mangé souvent, hein, dans un endroit qui est une institution à Surabaya. Alors, je sais pas si Déti vous connaissez, qui s'appelle Rawon Setan.
Ah oui.
Vous connaissez ? C'est une institution à Surabaya.
Oh oui, le mot Setan, en fait,
c'est pour ça que je veux pas le traduire.
Non, mais le concept Setan en indonésien, là, c'est pour
c'est
dire
spooky.
Que c'est vraiment fort parce que il y a un sambal, du piment,
une sauce piquante.
Une sauce piquante.
Oui, le sambal,
c'est
avec des gros guillemets, hein, le ketchup indonésien, oui, c'est la sauce.
C'est en fait là une purée de piment, mais enfin avec des épices et tout ça. C'est ça qui rend que ça devienne très fort, quoi.
Et moi, je voulais que Lynn voulait parler vraiment de cette soupe qui est, parce qu'on parle toujours de la soto ayam, mais soto rawon, c'est vraiment une soupe emblématique.
La référence setan, en fait, on vous renvoie au fait que c'est très piquant. Et ça veut dire, en fait, mot à mot, diabolique. Ouais. Mais en fait, ça veut seulement évoquer que c'est très bon.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette soupe ?
Alors, rawon, c'est généralement au bœuf.
C'est ça. Des morceaux de bœuf. Après, on en met aussi des pousses de soja.
Oui, pousses d'haricots mongo, précisément. Ouais. Et ce fameux sambal, donc. Hein,
oui.
Qui va relever. Alors, la couleur noire, ça viendrait de la noix de Panjom Edulé, qui est une variété de teck, en fait. Mm-hmm. Et donc, c'est ça qui donnerait la couleur noire au rawon. Et c'est là qu'on voit la force du teck, là, pour colorer un peu ce potage. Hein.
Alors, on met toujours du...
En indonésien, c'est
ce qui donne la couleur noire, c'est le kluwak.
Kluwak, d'accord.
C'est ce que vous appelez...
Panjom Edway, enfin, moi, j'ai donné le nom...
Scientifique.
Alors, on met du riz dedans, hein, en général.
Oui, il y a le riz, on peut le servir à part ou bien...
Dedans,
oui. Moi, je le préfère à part, quand même.
Oui, il y a une autre originalité à Surabaya que j'ai trouvé en préparant l'émission, c'est le rujak singur, du museau de bœuf mariné, avec des légumes bouillis, des chips de crevettes, donc là, terre et mer, hein. Assaisonné de pétis, de sauce aux arachides et d'épices, accompagné de lontong. Alors, qu'est-ce que le lontong ?
Le lontong, c'est du riz qui est cuit avec beaucoup plus d'eau et en forme de pâté, en fait.
D'accord, c'est du riz.
Du gâteau de riz. Oui. Enfin, gâteau, façon de parler pour la forme.
C'est du rice cake un peu.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Oui, parce que ça, c'est original, du museau mariné de bœuf, on ne trouve pas ça partout. Il m'est compris en Indonésie, j'imagine. D'ailleurs, le bœuf, c'est pas la viande la plus répandue en Indonésie. On est vraiment beaucoup plus volaille.
Si, on mange du bœuf quand même. Du bœuf séché aussi.
Oui.
du bœuf séché en, dans le rendang, bien sûr.
Oui, évidemment.
Oui. Si, c'est assez courant, le bœuf.
Oui. D'accord. Enfin, moi, je parlais Java Bali.
Oui.
Oui, d'accord. Bon.
Oui. Peut-être moins Bali.
Oui. Parce que... Oui, évidemment, vu qu'on on a les hindouistes.
Oui, c'est ça. Oui.
Et on mange beaucoup de poissons aussi hein, à Bali, il faut même le dire. Hein, la base de la nourriture,
c'est
du poisson.
On a la mer qui a une certaine richesse en poissons et autres fruits de mer.
Ouais. D'ailleurs, il y a une façon, une façon de cuisiner le poisson qui est commune à toute l'Indonésie. C'est ce poisson dans lequel on fait des entailles qu'on fait frire. Et après, selon l'endroit de l'Indonésie, on met une sauce différente dessus, mais la cuisson de base est la même. Avec quel poisson on fait ça, Nine, en Indonésie, souvent, la plupart
gourame.
Du temps
gourame.
Le gourame, alors ça, c'est ce que je vous montrais hier, Manu. Le
oui,
gourame,
absolument, absolument.
C'est cette espèce de sculpture qui est frite. Hein.
Oui, c'est vrai. On l'ouvre de côté, comme ça, il forme une espèce de poisson volant.
Poisson volant, oui.
Voilà.
Oui, gourame, c'est joli, puis c'est bon aussi le poisson frit quand c'est bien cuit, c'est très bon.
Bien, l'Indonésie est à Paris au BHV, Manu, au bazar de l'Hôtel de Ville.
Absolument, absolument. On peut retrouver cette opération jusqu'au 17 juillet. Donc allez-y, il reste du temps, mais pas tant que ça. Donc allez-y dès maintenant. De Java à Bali, vous découvrirez l'Indonésie sous toutes ses coutures avec des expos de photos, de l'artisanat, des objets à acheter pour la maison et puis également tout un tas d'animations autour des arts martiaux, de la danse balinaise, le batik, le thé, le café. Il y a plein de choses à découvrir. Vous pouvez y retourner plusieurs fois puisqu'il y a des animations certains jours. Vous avez même des ateliers de création de batik. Ça, c'est super intéressant.
Donc, ça sera aujourd'hui, ça.
Ah, ça, c'est aujourd'hui.
Ça,
donc.
C'est aujourd'hui à partir de 15h. C'est au 5e étage à l'observatoire du BHV Marais. Il y aura un atelier de création de batik. Donc, ça sera dès le début le...
Ok,
voilà.
On repart sur le batik dans un instant.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Voilà, et aujourd'hui, Manu, c'est la culture et la gastronomie indonésienne à travers une exposition qui se tient au bazar de l'Hôtel de Ville.
Oui, enfin,
BHV.
Plus qu'une exposition, hein, c'est une grande animation, hein, Philippe, même des animations, hein, puisque jusqu'au 17 juillet, on découvre l'Indonésie de Java à Bali, donc avec des produits indonésiens à vendre. Il y a aussi de la mode indonésienne, hein, il y a beaucoup de créateurs indonésiens hein, qui sont de plus en plus célèbres dans le monde entier et qui font des très belles choses. Il y a également évidemment du batik, hein, on en parlait pendant la pause, hein, c'est une institution javanaise, le batik, qui est inscrit d'ailleurs au patrimoine immatériel de l'humanité, hein, auprès de l'UNESCO.
En 2009.
Voilà. Et puis il y a beaucoup d'animations, hein. Il y a une exposition de photos de l'UNESCO. Il y a des ateliers de danse balinaise. Il y a un atelier de création de batik. Donc,
c'est ça, aujourd'hui voilà. À 15h.
Aujourd'hui à 15h. Dégustation.
Cinquième étage.
Voilà.
Alors, sur le batik, il faut expliquer aux gens parce que ça se voit pas toujours quand on voit le batik, mais c'est d'abord un procédé de fabrication qui est très, très abouti. Hein.
C'est ça, oui. Hein. Ça commence par un tissu blanc, là où les gens vont dessiner à l'aide d'un, soi-disant, un stylo.
Comment on l'appelle ce stylo
On appelle ça chanting en indonésien.
C'est un chanting.
C'est chanting. Un peu comme un fusain.
Exactement. Ça. Et à l'intérieur, on met de la cire, soi-disant, de la cire chauffée, donc liquide.
Pour remplir les couleurs.
Exactement, pour remplir les couleurs. Non, en fait, c'est pour protéger le tissu. Et après, dans le processus de coloration, on le met à l'intérieur de la couleur. Comme ça, les autres parties qui ne sont pas protégées par la cire prendront la couleur. Et ensuite, on va faire le même processus pour d'autres couleurs.
Voilà, alors il y a beaucoup de pays d'Afrique hein, qui sont très fiers du wax, mais ce que certains ne savent pas, c'est que le wax, en fait, c'est le batik qui a été exporté en Afrique. Donc le batik, non seulement c'est un art indonésien, même javanais, hein, le batik, mais qui a rayonné dans le monde, puisque on l'a retrouvé effectivement jusque dans certains pays d'Afrique sous le nom de wax. Et c'est effectivement cette technique d'impression des tissus avec de la cire qui a beaucoup d'intérêt, parce que c'est vrai qu'en Indonésie, souvent, il fait très chaud, mais c'est un tissu qui ne tient pas chaud, mais qui pourtant, grâce à la cire, est imperméable. Comme il y a des périodes où il pleut aussi pas mal, c'est intéressant.
Non, mais dans le processus de batik, à la fin, on enlève la cire, en fait.
Oui, mais ça garde une certaine imperméabilité. C'est ça qui est intéressant.
Le batik, donc, à l'origine, est toujours fait main. C'est comme ça. C'est la technique du batik.
Même si aujourd'hui...
La cire crée les réserves. Les réserves, donc, comme dit Ibu Detti, pour protéger ce tissu. Après, ensuite, il passe la teinture et au fur et à mesure, on enlève la cire. Mais à l'origine, c'est toujours un tissu fait main, à l'origine. Depuis, nous avons fait une façon mécanique de les imprimer. Et effectivement, le wax, c'était... Et vient du batik.
Et les tournées du. Voilà. Et alors, ça, c'est vrai que le batik, c'est un pur exemple d'artisanat qui est issu du mélange d'art bouddhique et d'art hindouiste, puisque on distingue en Indonésie trois grandes familles d'art. Il y a l'art tribal, puisqu'on parle de plus de 1000 ethnies, donc il y a évidemment ces tribus, ces ethnies qui ont généré leur propre art. D'ailleurs, dans l'art tribal, il y a souvent des dimensions religieuses. Il y a l'art qui est utilisé, donc de Java et de Bali principalement, qui est issu de l'hindouisme et de l'art bouddhique. Et puis il y a l'artisanat influencé par l'islam, qui a influencé les arts locaux, l'architecture, notamment des mosquées, mais pas que, parce que des mosquées, il y en a tellement de types différents.
Oui.
Et c'est vrai que ça aussi, ça donne une diversification artistique très très importante à l'Indonésie.
Et juste pour revenir sur le batik, il y a aussi tous les motifs du batik, tous les motifs qui auparavant pouvaient représenter le niveau social. De royauté, de noblesse. Alors, certains batiks pouvaient être portés lorsque on n'était pas marié. Il y a vraiment une diversité et une classification, comme les clans en Écosse, un petit peu.
Et il se transmettait de famille en famille, de génération en génération. Par exemple, quand on voit les officiels indonésiens, c'est rare qu'on les voit en costume de ville occidentale. Ils sont en batik.
En chemise de batik.
Oui, ouais. Ou alors s'ils sont en occidental, souvent ils ont une grande étole de en batik sur le côté. Mais il n'y a pas. Alors on parle du batik parce qu'effectivement c'est le plus connu, mais l'artisanat du textile. En Indonésie, encore plus vaste que ça, parce qu'il y a l'ikat, par exemple.
Oui, comme ce que je porte là,
voilà,
en ce moment.
Exactement. Voilà, donc ça, c'est originaire de Nusa Tenggara. Il y a le songket. Alors ça, c'est un artisanat, c'est la soie qui est brodée avec des fils d'or, etc.
D'or ou d'argent.
Et ça donne des choses magnifiques. C'est-à-dire qu'on parle du batik, mais on n'imagine pas. Enfin, c'est un puissant fond, l'Indonésie au niveau artistique. Culturel, etc.
Le patrimoine indonésien est tellement riche et vaste, effectivement, pour les tissus, souvent on connaît, c'est-à-dire que je vois parfois les motifs indonésiens, mais on ne sait pas que c'est issu de la tradition indonésienne, soit du batik, soit des ikat. Donc, je pense que ça, on a aussi beaucoup à faire pour parler de la culture indonésienne.
Et on parlait du tissage des tissus, mais il y a le tissage de l'osier aussi, parce que la vannerie en Indonésie, c'est quelque chose de très, très, très répandu également, notamment à Lombok, par exemple. Enfin,
le tressage des nattes aussi. Le tressage, et ça donne justement, on est en train de préparer un site internet sur toutes les richesses de l'Indonésie, les meilleurs produits et les meilleurs talents d'Indonésie. Et vous serez ici en avant-première.
Ouais. Et puis en très en avance aussi sur le travail des métaux en Indonésie, puisque on a retrouvé des bronzes, des sculptures en bronze en Indonésie qui dataient entre du 8e siècle et du 3e siècle avant Jésus-Christ.
Oui, donc c'est au moment de la création des temples comme ouais, Borobudur par exemple, au 8e ouais. siècle, là, il y avait toute une richesse qui est venue avec.
Voilà, donc le travail du bronze en Indonésie est vraiment très très ancien et c'est ce qui fait notamment qu'on trouve des très beaux bijoux puisqu'on fait des bijoux en bronze ou en d'autres métaux. On maîtrise l'art du métal, le travail du métal en Indonésie depuis bien avant JC. C'est
vrai. JC, oui, Manu.
L'homme de Java, Manu, est-ce que eh oui. ça nous dit quelque chose?
Oui, oui, il faut rappeler l'homme de Java, oui. Nine, l'homme de Java.
Alors, est-ce qu'il faut qu'on parle du nom scientifique de l'Homo erectus?
On peut, si vous voulez. Sinon, on parle de Borobudur. C'est comme vous voulez.
Mais on peut parler un peu de cuisine aussi, d'ailleurs.
Bien. Alors, tiens, puisqu'on est en train de se promener sur l'île de Java, il y a une cuisine qu'on connaît peu en Europe, mais qu'est-ce qu'on appelle la cuisine betawi Nine. Hein, qui c'est, alors c'est Jakarta, c'est quelle région là, la cuisine betawi?
Betawi, effectivement, c'est la région de Jakarta.
Alors il y a un plat emblématique qui est la soupe betawi qu'on appelle soto betawi. Ibudeti, qu'est-ce qu'il y a dans soto betawi?
Non, le soto betawi à la base c'est tout ce qui est du bœuf. Qui vient du bœuf. Alors, ça peut être la viande ou bien d'autres parties.
Oui, soto, ça veut dire bœuf, c'est ça?
Non, soto, non. Ça veut dire une soupe.
Ah, d'accord.
C'est la soupe, soto, c'est un petit peu, enfin, pour dire, cette soupe qu'on trouve en Indonésie de l'ouest à l'est, ce soto-là, il y a beaucoup de variations.
Oui, soto ayam.
Soto, ça veut dire,
ayam.
Exactement. Ouais, voilà, ouais. C'est une soupe qui peut être différente de l'ouest à l'est.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dans une bonne soto betawi, par exemple?
De la viande, des tomates, des patates aussi. En général, c'est 3.
Et une pointe de lait de coco.
C'est ça qui fait.
C'est précis.
C'est la signature.
Ah oui. Hein,
mais qui peut être. Il y a plus ou moins coco d'ailleurs dans la soto betawi. Il y a ceux qui aiment sucré, puis ceux qui aiment moins. C'est un des plats emblématiques hein, de la cuisine indonésienne d'ailleurs, la soto betawi.
Oui. Alors là, on parle de. Alors, on va peut-être faire une pause d'abord. Parce que j'entends maître Bouali.
Qui rumine.
Qui rumine.
Je rappelle qu'il y aura un tirage au sort, Manu, tout à l'heure.
En fin d'émission, tout à fait. Puisque la semaine dernière, vous avez joué pour gagner le livre Légumaniaque de Sylvia Gabay, paru aux éditions La Martinière. Il ne vous reste plus que quelques instants pour jouer. Si vous voulez gagner ce livre, vous allez sur mon Instagram, Mariani, mariani.manuel, M-A-N-U-E-L, et vous vous laissez guider. À tout de suite.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beur FM.
Voilà, culture et gastronomie indonésienne aujourd'hui, Manu.
Absolument, avec nos invités Deti Sylvida Gani, j'espère que je n'écorche pas son nom.
Non, c'était bien prononcé.
Voilà, bon, parce que je la connaissais déjà, mais je l'appelais juste Deti. Donc c'était plus simple. Donc qui est chef et première secrétaire du service d'information et socioculturel de l'ambassade d'Indonésie en France. Et puis une ambassadrice pour tout ce qui est culture, société, etc. Et puis autre ambassade de l'Indonésie à Paris, c'est celle de Nine Hanafi, hein, le Jakarta Bali, l'ambassade gourmande. Hein, pour l'Indonésie à Paris. Et puis vous êtes également responsable de Indonesia Diaspora Network France, qui est l'association de la diaspora indonésienne en France, qui est très très active hein, parce que vous organisez beaucoup de choses, d'ailleurs souvent en partenariat avec l'ambassade hein, tout au long de l'année à Paris, hein, beaucoup d'événements.
Des événements pour promouvoir l'Indonésie, Manuel, toujours avec la diaspora indonésienne en France, qui est très active et qui a beaucoup de talent, notamment dans les danses, la musique.
Les arts, beaucoup de les arts en général, oui. Ouais.
La peinture, il y a des designers de mode. La diaspora indonésienne est vraiment, en France, ancrée sur la culture. Alors, effectivement, nous faisons des événements aussi quand il y a, malheureusement, des événements d'urgence.
Des catastrophes, comme on l'a vu. sur le volcan récemment.
Hein. Oui, beaucoup de solidarité aussi hein, de la part de la diaspora indonésienne qui aide beaucoup effectivement les gens qui sont au pays, comme on dit, quand il y a des soucis comme des tsunamis. Les
voilà, le mont Semeru qui se trouve sur l'île de Java et qui est donc le mont le plus haut d'Indonésie, Nin.
Et qui a fait quelques dégâts il y a en début d'année.
Vous avez commencé d'ailleurs quand vous avez lancé l'événement à Paris. Il y avait une ville qui était à l'honneur. C'était Surakarta, la ville de Solo. Il y a beaucoup de choses qui et c'est une ville qui est assez peu connue parce qu'on connaît bien sa petite sœur qui est à côté, qui est Yogyakarta.
Sa grande sœur.
Ouais, sa grande sœur.
Parce qu'en fait, à l'origine, le royaume de Yogyakarta est en fait dans une histoire de dynastie. Un frère a décidé de faire son royaume à côté. Et d'où la naissance de la ville de Surakarta, et plus communément appelée Solo.
C'est pour ça qu'il y a deux kératons, ce sont les palais hein, des gouverneurs. C'est quoi, des sultans, c'est des princes.
C'est des sultans.
Ouais, oui, ils sont encore hein, aujourd'hui, ils vivent encore dans leur palais. Oui.
On peut alors du coup, le groupe Sheraton, ça vient de Keraton peut-être Non, mais je pose la question sérieusement, puisque... comme les Sheraton sont des beaux hôtels, peut-être que ça vient de là, je ne sais pas.
Il y a peut-être une Sheraton veut dire palais.
D'accord.
Et alors là aussi, ce sont des villes où il y a énormément de gastronomie hein, qui sont développées dans ces villes comme Yogyakarta, des villes comme Solo. Par exemple, qu'est-ce que vous prendriez comme plat emblématique de Yogyakarta?
Gudeg peut-être, non?
Le gudeg, ouais. Bien sûr. Le gudeg qui est certains pourront dire que c'est un peu sucré. Parce que c'est le fruit de jacquier.
Voilà,
c'est un plat qui est fait à base de fruits de jacquier. C'est un plat traditionnel javanais en fait. Hein, c'est
jackfruit.
Vrai, qu'on trouve à Yogyakarta et à Java central. Donc c'est fabriqué à partir de jeunes fruits de jacquier, cuit pendant plusieurs heures avec du sucre de palme et du lait de coco.
Voilà.
C'est un délice.
Et c'est vrai que dans cette partie d'Indonésie, la cuisine est plus sucrée, on va dire, que dans le reste de l'Indonésie. Même le riz, alors ils ont un riz, hein, comment, c'est quel riz? C'est quel nasi?
Nasi liwet, peut-être.
C'est ça. Nasi liwet.
Nasi liwet, c'est un petit peu. C'est cuit avec du lait du coco. Après, à côté, il y a du. La boussiam. Et du poulet à côté.
Et il y a du riz qui font cuire dans du bambou.
C'est vrai.
Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça?
Riz cuit dans le bambou, en fait, c'est pour donner une certaine arôme. C'est comme longtemps aussi, on peut l'utiliser, on peut le mettre soit dans les feuilles de bananier, soit à l'intérieur des bambous.
Lemang, c'est ça. C'est le nom. Lemang.
Et c'est délicieux.
Bien sûr.
Ça, c'est vraiment délicieux.
Ça va sans dire.
Alors ça, c'est un héritage culinaire chinois, hein, la cuisson dans le bambou. C'est vrai qu'on trouve des influences...
C'est beaucoup plus gluant, en fait. C'est pas avec le riz qu'on mange avec des plats à côté, mais ça, c'est beaucoup plus côté
ça fait
côté
presque une
dessert,
pâte de riz, comme le riz gluant un peu.
C'est ça.
On parlait d'une tradition de café à Yogyakarta, Ibu Diti,
oui.
Qu'on appelle le Juice Café.
Café Juice. Café Juice, c'est à la base du café avec... on n'utilise pas à la base le café Tobruk. On met juste de l'eau chaude et le café sans avoir une machine à côté. Comme ça, il y a encore des morceaux de café qui flottent en haut. Et à l'intérieur, on va mettre le charbon bien chaud. Et ça donne le joss.
Et le joss, c'est le...
Voilà.
C'est le bruit que fait le charbon lorsqu'on le jette dans
le café.
Dans le verre.
Et c'est une institution maintenant, hein, dans la grande rue principale de Yogyakarta.
Malioboro, voilà. À Yogyakarta. Là, il y a des petits coins, là, vous pouvez trouver le café Joss, qui est maintenant très connu.
Aujourd'hui, je vous ai apporté, Manuel Philippe, du Kopi Luwak. Indonésie.
Kopi Luwak, c'est le café le plus cher du monde.
Alors,
oui, c'est le plus cher. Aujourd'hui, c'est le plus cher du monde. Hein.
Oui, c'est vrai. Devant le Blue Jamaica. Et c'est une spécialité indonésienne parce que c'est un café, effectivement, qui passe par la digestion des civettes. Et d'ailleurs, ce café-là, on lui enlève l'acidité. Donc, il y a cette rondeur. C'est cette profondeur qui le rend vraiment, vraiment très bon.
Hmm. Mais qui vient plutôt de Sumatra, d'ailleurs.
Oui. Hein? Donc, des civettes qui vont manger les...
Des civettes, c'est des petits animaux. Hein.
Oui, c'est ça.
Des petits animaux.
Mmh. Les graines de café, et donc...
Elles font caca, le café.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'elles n'ont pas de digestion. Parce que si ça avait été digéré, elles seraient broyées, ces noix-là.
Voilà. Et c'est un café qui est très rare, qu'on trouve dans le monde entier. Il faut savoir que l'Indonésie est un gros pays producteur de café. Hein. Ce qu'on sait assez peu, vous communiquez assez peu sur cette spécificité.
Oui, parce que c'est beaucoup plus des cafés de spécialité. Alors, chaque région a son propre goût de café, chaque région a sa spécialité. Et le côté ouest de l'Indonésie, c'est beaucoup plus... C'est les plus grands producteurs de café Robusta. Donc...
Mais la Robusta, c'est celui qui réveille. Hein.
Qui réveille.
L'Arabica, c'est celui qui donne le parfum, voilà. Un peu doux.
Nous, on aime bien quand c'est bien fort. Ça, c'est le café indonésien.
Mais il faut savoir que les grandes chaînes de café du monde, aujourd'hui comme Starbucks, viennent en Indonésie pour préempter une grande partie de la production.
C'est vrai, oui. Surtout de Sumatra. On a les cafés les plus connus de l'Indonésie, par exemple, le café de Sumatra, le café de Toraja. Bon, enfin, parce que partout en Indonésie, on a sa spécialité. Donc, il faudrait goûter un par un parce que là, après, c'est le goût qui est...
Il faut prendre une année sabbatique et venir en Indonésie.
C'est une bonne idée, ça, tiens.
Voilà. Un voyage, pas seulement culinaire, mais peut-être un voyage sabbatique spécialement pour découvrir le café de chaque...
Région.
Chaque région.
Oui, enfin, entre deux dégustations de café, il faut bien se nourrir. Hein.
Voilà, c'est ça.
Bon, Philippe, on n'aura sans doute pas le temps de faire le tirage au sort, mais en revanche... Donc on pourra le faire la semaine prochaine, mais en revanche, donc Nina Nafi, je dis ça tant qu'il nous reste un petit peu de temps, nous a proposé pendant la pause de faire gagner un repas pour deux personnes dans son restaurant Jakarta Bali. Donc c'est une excellente occasion. Après
et
la visite au
Manuel
BHV.
Mariani et Philippe Robichon qui ont gagné. Voilà. J'ai procédé au tirage au sort. Et si on pouvait emmener Maître Boilly, comme ça c'est parfait.
Non, Philippe, ça ne marche pas comme ça. Et en plus, c'est moi le corps, c'est moi qui dois truquer les élections normalement. Donc, alors, je vous explique. Vous allez sur mon Instagram, Mariani, M-A-R-I-A-N-I, point Manuel. Vous laissez guider. Et puis, vous participez donc pour gagner ce repas pour deux au Jakarta Bali, qu'on connaît bien avec Philippe. Hein, et on y mange très, très bien. Il y a une super ambiance. C'est vraiment l'Indonésie... À Paris, je dis toujours que Jakarta Bali, c'est la deuxième ambassade.
Et c'est le goût du bled. Hein, parce que ce qui est très important quand on retrouve une... voilà, qu'on va manger et qu'on aime une gastronomie, c'est de retrouver le goût comme on l'a goûté sur place. Et ça, c'est important.
Mais on fait vraiment attention à ça parce que depuis 38 ans que le restaurant existe, ces recettes sont réalisées avec tout notre cœur et avec des épices fraîches et selon les recettes traditionnelles.
Hey, absolument.
Alors à noter pour ceux qui nous écoutent que l'Indonésie a réouvert aux touristes.
Exactement, oui.
Depuis peu de temps.
Oui, depuis début mars, on a réouvert aux touristes. Il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de test PCR et avec la facilité d'un visa à l'arrivée. Alors, il vous suffit juste d'un passeport et un billet de retour et voilà, vous êtes en Indonésie. En très peu de temps, pas besoin d'attendre le visa qui sort. Là, il y a une très grande queue pour venir en France, au côté visa pour entrer en France. Alors qu'en Indonésie, il n'y a pas de souci, vous venez juste avec votre sac et vos passeports, vous êtes en Indonésie, direct.
Bon, en tous les cas, alors je ne sais pas ce qu'il me dit, hein, mais apparemment le professeur Warsito nous écoute parce que sur WhatsApp, il m'envoie des petits vocaux. Donc, oui. Warsito, j'écoute ton message juste après. Hein. Merci.
Le professeur Warsito de l'ambassade d'Indonésie, qu'on connaît bien.
Absolument.
Ici, sur Beurre FM. Vous avez cette exposition, déjà, qui va vous donner une idée de ce que c'est, parce que c'est vrai que Bali, on pense toujours, en Indonésie, on pense toujours à Bali. Mais oui, il y a Bali, c'est cette île magnifique, vraiment connue des surfeurs, de tous ceux qui aiment les rizières, bon, avec ces vues qui sont incroyables. Mais l'Indonésie, c'est autre chose. C'est aussi cette île magnifique de Java. Pour ceux qui aiment les volcans, parce que de plus en plus, il y a ce tourisme des personnes qui aiment escalader les volcans. Vous avez des volcans en activité. Il y a vraiment des tours aujourd'hui pour les voir. Il y a deux temples qui sont emblématiques.
Oui, Borobudur et Prambanan qui sont en plein milieu de Java. Et ça, c'est vraiment à découvrir aussi. Ça date de très longtemps. Ça date de 8e siècle. Mmh. Et il est déjà là. On l'a redécouvert dans les années 1900. Et donc,
il était sous la cendre. Hein. On l'a sorti de la cendre. Mais c'est tellement gigantesque qu'on ne peut même pas expliquer comment c'est gigantesque.
C'est à l'échelle de l'Indonésie. L'Indonésie, il faut quand même comprendre, c'est 3 fuseaux horaires. C'est un pays lointain, on n'imagine pas.
Oui, non, mais...
Et non, c'est pour donner l'échelle de l'Indonésie. Mmh. Donc, et on trouve une richesse. Donc, d'île en île, on peut voyager, trouver des choses tellement différentes. C'est une expérience à vivre en plusieurs voyages.
Voilà, je rappelle juste pour les auditeurs, parce que c'est important pour l'ambassade, cette opération donc, au BHV jusqu'au 17 juillet. Vous avez vraiment plein de choses. Puis, c'est quelque chose d'éthique aussi dans l'air du temps, parce que en achetant les produits des créateurs indonésiens là-bas, vous faites quelque chose de bien pour le commerce équitable, etc. Donc, c'est parfait.
Merci d'avoir été avec nous, Manuel Mariani. Merci. On vous retrouve tout l'été avec vos influenceurs, Manu.
Et oui, on va essayer.
Samedi sur Beurre FM. Passez un bon week-end.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.